بنت الشرقية عيونها روزية حبك من قلبي يا بنتي عيني حبك من قلبي يا بنتي عيني بنت الشرقية
Bonjour, nous démarrons l'émission Une heure en Palestine qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. C'est Sidi qui est à la technique. Merci Sidi et merci à toute l'équipe de Radio Galère. Bien sûr, comme on dit à Marseille, je vous fais un peu languir pour vous présenter mes invités, mais vous ne perdez rien pour attendre. Car ce 1er août 2024, je voulais dédier cette émission aux journalistes tués par Israël. Ils sont bien plus d'une centaine. On estime le chiffre à 161 journalistes, reporters, vidéastes, photographes pris pour cible par l'armée israélienne. Les journalistes palestiniens couvrant Gaza ont été désignés lauréats du prix mondial de la liberté de la presse par l'UNESCO, prix Guillermo Cano en 2024, sur recommandation d'un jury international de professionnels des médias. Et pourtant, nos journalistes, et en particulier ceux du service public, sont bien silencieux face à leurs collègues assassinés et empêchés de travailler, face à l'interdiction d'aller sur place. Je dédie aussi cette émission à la journaliste vedette de la chaîne Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, tuée le 11 mai 2022 en Cisjordanie occupée par un soldat israélien utilisant un fusil de précision. Le temps passe si vite, mais ne nous habituons pas. Quelques mots avant de démarrer cette émission, dont vous devinez le thème, je vous aide, hein, et de vous présenter mes invités. Je vous rappelle que Palestine 13 est la branche locale de la FPS, Association France-Palestine Solidarité. Palestine 13 a un site internet qui est mis à jour quotidiennement en essayant d'alterner actualités et documents historiques qui aident à comprendre, documents de fond que vous ne trouverez nulle part ailleurs, compte rendu de manifestations marseillaises ou du départ de la flottille de Martigues, de la flottille pour la paix de Martigues, en présence de notre ami Sarah Katz. Et vous trouverez des pages culturelles, car le peuple palestinien est un peuple cultivé et créatif, et la culture est son identité. Vous trouverez aussi sur le site de Palestine 13 un article très intéressant sur une nouvelle victoire du droit Israël, de nouveau mis en cause par la Cour internationale de justice, à lire sur le site assopalestine13.org ou sur notre page Facebook. Sur notre site, vous trouverez aussi des informations sur la campagne BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, car bien sûr, Palestine 13 est partie prenante de ce mouvement créé par les Palestiniens en référence au mouvement de boycott de l'Afrique du Sud au moment de l'Apartheid. Nous avons été partie prenante d'une campagne contre Puma, le sponsor de l'OM, car il était aussi le sponsor des équipes de foot implantées dans les colonies israéliennes illégales. Et nous venons d'apprendre que Puma se retirait des colonies israéliennes illégales. Nous serons vigilants, mais ne boudons pas notre satisfaction du succès de cette campagne internationale. Aujourd'hui, l'action de boycott est dirigée contre les magasins Carrefour. Carrefour qui commerce tranquillement dans ces mêmes colonies illégales. Nous vous appelons à faire connaître cette triste réalité aux dirigeants et au personnel des magasins Carrefour, ainsi qu'à leurs clients, auxquels nous demandons d'effectuer ailleurs leurs courses pour la rentrée scolaire. Je vous propose aussi une information que vous ne trouverez pas ailleurs sur une action de solidarité internationale importante. Une action intitulée « Defend Palestine » qui lance une campagne de protection civile pour protéger les civils palestiniens des agressions israéliennes constantes de la violence des colons, des meurtres et de l'oppression militaire. L'objectif est de recruter des volontaires internationaux pour à la fois offrir une protection directe aux civils palestiniens confrontés à la violence et aux attaques des colons, mais aussi de documenter et de rapporter les violations de leurs droits. Défendre Palestine est un mouvement issu d'une coalition de militants expérimentés, de jeunes activistes et d'étudiants palestiniens de toute la Cisjordanie, déterminés à contrer le pic exponentiel des violences israéliennes. Défendre Palestine est soutenu par de nombreux partenaires internationaux, dont la FPS, ainsi que de nombreuses personnalités. La FPS relaie l'appel de la campagne Défendre Palestine, qui demande une action immédiate pour protéger le peuple palestinien et faire respecter le droit international. La FPS précise bien sûr qu'au regard de la situation extrêmement tendue en Cisjordanie, il est fortement recommandé d'avoir déjà une connaissance du terrain et d'être conscient des implications de la situation. Les volontaires suivront une formation intensive de 2 jours en Cisjordanie qui inclura la découverte du pays, les droits et obligations, les principes et techniques de l'intervention non violente et de désescalade, les pratiques de documentation, le respect des responsables palestiniens et des besoins des communautés locales. Après la formation, les volontaires seront basés dans des communautés menacées et pourront aussi être mobilisés en cas d'urgence. Pour être volontaire et pour obtenir des informations, contactez la campagne Défendre Palestine, phase 3A, via le site c'est defendpalestine.org ou plus simple, vous allez sur le site de la FPS et vous trouverez tous les détails, donc france-palestine.org. Pour ceux qui sont moins intrépides, il y a de nombreux appels à dons réalisés par des partenaires historiques de la lutte pour la justice en Palestine et qui ont tissé des réseaux leur permettant de faire transiter l'argent en toute confiance. Il y a la FPS qui collecte en particulier pour replanter des oliviers ou pour permettre à la population de Gaza d'avoir un accès minimum aux soins. Il y a l'Union juive française pour la paix qui soutient son partenaire historique des paysans de Gaza. Il y a l'UNRWA dont l'action est primordiale à l'heure où écoles et universités ont été dévastées. Il y en a d'autres. Notre générosité n'est que justice, notre solidarité que le symbole de notre humanité. Après cette longue introduction que j'ai jugée nécessaire, que j'espère mes invités me pardonnent, je leur donne la parole en les assurant de la fierté que j'ai de les recevoir sur l'antenne de Radio Galère. Pouvez-vous vous présenter l'un après l'autre ? Alors, on commence par Marie, bien sûr. Marie, qui es-tu ? On a déjà fait une émission ensemble, hein, mais on se le redit. Qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené à t'engager pour la Palestine ?
Bonjour tout le monde, bonjour Claire. Déjà, merci à toi pour tout ce que tu fais, toutes ces émissions sur la Palestine et tout ton engagement. Alors moi, je suis Marie, j'ai une nièce, réalisatrice. J'ai fait du coup une mémoire contre l'oubli, un documentaire d'une quarantaine de minutes sur un portrait de 3 familles, une famille musulmane, une famille chrétienne, une famille samaritaine, qui ont tous 3 des prisonniers politiques en Cisjordanie. Donc j'ai réalisé ce film entre 2014 et 2019. Et voilà, depuis, enfin, j'ai fait en indépendance et il tourne depuis quelques années comme ça et malheureusement depuis le début du génocide sur Gaza, il y a un peu plus d'intérêt pour la Palestine et voilà. Et du coup Yazid, je te laisse te présenter.
À toi.
Oui, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Yazid, je suis un militant du coup sur la question palestinienne depuis maintenant de nombreuses années. J'ai étudié le sujet notamment du coup sur les questions d'économie de résistance dans les territoires palestiniens et j'ai aussi fait un gros travail pendant 2 ans autour du coup de faire un bilan politique un peu du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza. Donc ça a été un sujet assez riche du coup pour mieux comprendre un peu les réalités palestiniennes. Et j'ai moi-même cofondé du coup une ONG qui intervenait principalement à Gaza il y a de ça maintenant plus de 10 ans. et qui accompagnait du coup des projets de co-développement du coup portés par des Gazaouis eux-mêmes. Voilà. Et du coup, la rencontre avec Marie nous a amené aujourd'hui du coup à créer Visa Palestinien.
Pour compléter l'appel à dons, tu peux donner les coordonnées de l'ONG si tu veux.
Oui, elle s'appelle We Are Solidarité. Du coup, vous pouvez trouver cette ONG du coup dont je suis plus parti, mais du coup qui existe toujours. Donc à la fois sur leur site internet ou sur les réseaux sociaux, Instagram entre autres.
Et tous les deux, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette cause palestinienne, Marie?
Alors moi, ça remonte à quand j'étais fin d'adolescence et que, comme tout le monde parlait de l'intifada, etc. Et j'ai commencé à me renseigner. Et le premier livre que j'avais découvert, c'était le livre d'Alain Gresh, Vérité Israël-Palestine, Vérité sur un conflit. Donc, a été mon ouverture sur la Palestine. Et puis après, ça a été mes recherches personnelles et après les réseaux sociaux. Et je pense que moi, mon déclic, il s'est vraiment fait pendant l'opération Plomb Durci en 2008-2009, quand j'ai vu le traitement médiatique. Et là, j'avais commencé à lire depuis quelques temps et donc m'intéresser à la cause palestinienne, et que j'ai vraiment découvert le deux poids deux mesures et les mensonges éhontés et la propagande de guerre qui était vraiment reprise par toutes les médias européens, que là je me suis dit un jour j'aimerais moi aller en Palestine et avec mon arme qui est moi la caméra faire quelque chose. Donc la première fois que je me suis vraiment dit ça, c'était en 2008-2009.
Merci Marie. Et toi Yazid?
Moi ça remonte un peu plus longtemps, mais j'ai mis du temps avant de comprendre exactement la date clé, mais du coup elle est assez précise. J'étais au collège, c'était du coup pendant la seconde intifada, et c'était en 2000, du coup c'était en septembre 2000 si je me rappelle bien, et j'étais rentré du coup pour la pause déjeuner, pour rentrer chez moi pour déjeuner, et du coup je tombe sur, du coup c'est le 13h, et sur le 13h passe du coup une action qui a fait un peu le tour du monde. C'est un char du coup avec qui tirait, avec des soldats qui tiraient du coup sur son père et son fils, Mohamed El Doura, du coup, et qui essayait de le protéger, et qui a été un déclencheur pour moi, de à la fois émotionnellement, intellectuellement, sur ma nécessité du coup de m'intéresser davantage. Donc j'étais au collège et je voulais devenir secrétaire général de l'ONU pour changer la situation en Palestine. Et j'ai fini par faire des études en relations internationales et comprendre que c'était pas forcément là-bas que tout se passait, et voilà. Mais mon déclencheur était en septembre 2000, du coup, alors que j'étais collégien, quoi.
Oh, c'est une belle histoire. Comme tous mes invités, je vous ai demandé de choisir deux chansons ou trois. On pourrait se passer la première pour avant de démarrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la première chanson que vous avez choisie?
C'est une chanson palestinienne assez connue, Ya Zarif, et je vous laisse l'écouter, elle est magnifique.
On y va.
يا زاري فتروح
Merci pour cette belle chanson qui nous donne envie de danser. Alors ça y est, hein, l'émission est engagée. Parlez-nous de votre magnifique projet, présentez-le et dites-nous où vous en êtes.
Ok. Alors Visa Palestinien, c'est un podcast qui met en avant du coup la Palestine et tous ses enjeux. Et l'idée de faire un podcast sur la Palestine, moi, il m'est venu en 2020. Je m'étais dit, il y a peu de, je cherchais du contenu et je trouvais pas dans tout ce qui était podcast et en français. Et il y en avait que en anglais. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant. J'avais commencé à noter des noms d'émissions, etc. Et puis finalement, ça me semblait un travail tellement énorme que j'ai mis de côté. Et c'est cette année, au début du génocide de Gaza, où j'ai rencontré Yazid et je me suis rapprochée aussi de Samir Akasha, qui est producteur, et on s'est rencontrés, tu pourras raconter, mais après ma garde à vue, parce que j'ai été prise en garde à vue pendant 24 heures après avoir juste participé à une manifestation. On s'est rencontrés dans ce cadre là on s'est fait un dîner tous ensemble, et suite à ce dîner, Samir m'a dit, Marie, voilà, je lance des podcasts, je voudrais te produire sur un podcast sur la Palestine, est-ce que ça te dit? Et tout de suite, je me suis dit, si je fais ça, je le fais avec Yazid, avec qui j'avais tout de suite accroché politiquement et sur beaucoup de sujets. Et voilà comment est partie l'idée de Visa Palestinien.
Et Yazid, tu as accepté?
Oui, c'était absolument naturel. On était au début du génocide, effectivement, et il y avait une vraie frustration, une vraie énergie, une vraie colère. Et du coup, on faisait partie de l'organisation des premières manifestations à Marseille, et on se disait que c'était pas suffisant, qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Et du coup, ce podcast, c'est l'idée de travailler à la question de la conscience collective, individuelle et collective sur ces sujets-là. Et qu'aujourd'hui, notre croyance à tous les deux, c'est que c'est la seule condition pour tous les sujets, pratiquement, j'ai envie de dire, c'est de se conscientiser politiquement, en tant que militant ou pas, culturellement, sur tous les sujets qui nous intéressent, notamment la question palestinienne. Et c'est qu'à cette seule condition qu'on va pouvoir avoir des personnes prêtes, du coup, à revendiquer des sujets, du coup, auprès de nos gouvernements et auprès d'autres acteurs, pour faire bouger un petit peu les choses sur la question palestinienne. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'un podcast était naturel, en dehors de tout ce qu'on fait à côté, pour pouvoir travailler sur la question à long terme, à moyen et long terme, sur la conscience individuelle des personnes qui ont envie davantage comprendre ce qui se joue et qui n'arrivent pas forcément à s'y retrouver dans toute la masse d'informations qui peut exister sur les réseaux sociaux, ou de la désinformation, très clairement, notamment avec les chaînes mainstream.
Oui, je posais la question, mais même avec le service public, on n'a quand même pas grand-chose. Et je posais la question en introduction, quoi. Comment combattre ce silence assourdissant, enfin, par rapport aux journalistes tués? Ils méritaient tous une minute de silence. Enfin, c'est terrible. Comment est-ce que ça, vous l'aviez en tête, cette idée de...
Oui, très clairement. Là, il y avait le Monde diplomatique qui avait fait un grand article de plusieurs pages sur le traitement médiatique français. Et ça s'intitulait « Le journalisme français, un danger public ». C'était Serge Halimi qui l'avait écrit, et Pierre Rimbert. Et en fait, ça faisait un état des lieux, en fait, du journalisme français depuis le 7 octobre. Et à quel point, en fait, c'est comme si la vérité, elle est, enfin, les bons et les méchants ont changé de place. Et vraiment, enfin, il y a une reprise générale de la propagande de guerre israélienne, mais vraiment là, qui est systématique dans tous les journaux français, même par rapport au RN, même par rapport à la France Insoumise, la France Insoumise, qui sont les seuls à défendre politiquement les Palestiniens et à dénoncer ce qui se passe à Gaza. Il y a eu complètement une ostracisation, une diabolisation de tous les personnages publics et politiques de ces milieux-là. Et face à ça, c'est notre seule arme, c'est du coup, c'est ça, c'est s'organiser. informer, créer des structures, soutenir aussi des médias. Bah, on a peu de médias de gauche et qui parlent de ça, mais on a, en France, on a quoi ? On a Blast, on a Le Média, on a Orient 21, donc créé par du coup Monsieur Alain Grèche. On a Le Monde Diplo, on a encore quelques espaces de liberté, mais sinon c'est vrai que on a quelques milliardaires qui tiennent les médias dominants et du coup qui font que cette propagande elle infuse un petit peu partout le discours dominant, et c'est vraiment ça qu'on voudrait essayer de contrer, enfin à notre petite échelle, mais en se disant que nous on peut essayer de le faire se propager à travers l'opinion publique en fait, mais c'est un travail qui est énorme hein, ouais. Ouais.
On peut le voir ne serait-ce que sur la terminologie de génocide du coup quand on utilisait cette terminologie au tout début du génocide on pouvait même pas du coup commencer du coup notre phrase qu'on était déjà repris sur la notion de génocide. Aujourd'hui c'est plus un sujet puisque du coup effectivement des instances internationales ont quand même posé un cadre à ce sujet, et on voit aussi que la question de l'opinion publique a bougé, ne serait-ce que moi j'ai regardé un peu sur les médias classiques mainstream, effectivement on parle quasiment très peu, mais on a vu quand même une évolution du coup au fur et à mesure du coup qu'il y a de plus en plus de manifestations dans les rues un peu partout dans le monde et notamment en France, et qu'on a commencé du coup à avoir un peu un traitement, mais un mini traitement toujours effectivement un peu biaisé certes, mais qui existait. Et là effectivement avec la dissolution du Parlement, de l'Assemblée nationale, ça a eu un vrai revirement du coup où on n'a plus du tout entendu parler de Gaza, pratiquement dans que ce soit presse écrite ou audiovisuelle. Mais je pense qu'effectivement le fait d'accompagner la société civile à mieux comprendre ce qui se joue en Palestine, je crois que aide pas forcément sur du court terme, mais à moyen et long terme, avoir des personnes engagées, suffisamment aussi conscientes et suffisamment avec un bagage pour répondre. Du coup, quand on nous accuse d'antisémitisme parce que du coup on critique le gouvernement israélien, ben du coup le travail qu'on mène du coup pour dissocier la question de l'antisémitisme à l'antisionisme, je pense est importante, et du coup on fait appel à des gens qui sont assez brillants sur le sujet pour pouvoir démonter du coup les arguments un peu fallacieux pour accéder.
Alors avant d'aller sur le contenu, parce que moi j'ai le privilège d'en connaître quelques-uns, on continue un peu sur la question technique, et dès le départ vous aviez la volonté d'en faire une série, ou vous êtes parti sur, parce que vous dites un podcast, comment ça s'est passé de un à une série?
Oui, alors l'idée c'était un podcast, ça sera une émission. En fait, c'était de faire une émission avec plein de thèmes, parce que l'idée c'était vraiment d'être quelque part un site ressource. Voilà, on s'était dit que ce podcast on le mettrait sur un site internet et que ça pourrait être une ressource pour tous les gens qui iraient chercher tel sujet. On voudrait qu'ils aient l'histoire de chaque parti politique, chaque contexte, le contexte de l'eau, des réfugiés, des prisonniers politiques. On voudrait de l'histoire, on voudrait de la culture, on voudrait.
Vous aviez l'idée.
Ah oui, c'était vraiment une émission. Et après, on s'est dit qu'on allait séparer ça en plusieurs saisons. Donc là, on est parti sur la saison 1.
S'il y a des gens qui nous quittent en route, on le dira bien à la fin, mais s'il y a des gens qui nous quittent en route, on peut trouver où pour l'instant
Visapalestinien.org. Ça, c'est le site visapalestinien.org. Ça, c'est notre site internet.
Palestinien au singulier.
Palestinien au singulier.
Visapalestinien.org. Voilà. On continue. On le redira à la fin de l'émission. Et alors, vous enregistrez comment on reste sur un peu la cuisine et à ne pas prendre au fond. Ouais. Vous enregistrez comment? Comment vous vous y prenez?
Moi j'ai la chance du coup de diriger une structure associative sur Marseille du coup d'éducation populaire, et du coup on a des locaux et du coup on a du matériel un petit peu de radio, et du coup on fait soit venir nos invités quand on le peut du coup dans nos locaux, soit on le fait à distance quand c'est pas possible, et Samir du coup qui est notre producteur qui nous a formés, qui nous prête le matériel, qui nous accompagne vraiment, parce que nous ne sommes pas, en tout cas moi j'aurais jamais imaginé du coup faire un podcast dans ma vie, c'était pas socialement et culturellement quelque chose auquel je me dirigeais, mais voilà, j'en suis.
Durée du podcast, comment vous l'avez déterminée et comment vous y tenez?
On essaie de se mettre à la place de quelqu'un, d'une personne, un auditeur, une auditrice qui a envie d'en savoir un petit peu plus, de dire jusqu'où la capacité d'attention du coup peut aller. Donc on a beaucoup de choses à dire, et il y a aussi quelque chose, on a envie d'être précis, puisque du coup c'est d'être rigoureux scientifiquement avec des sources, etc. Et du coup c'est important de on ne peut pas faire ça en 15 minutes sur un sujet comme les prisonniers ou sur l'histoire du coup la création de l'État d'Israël.
C'est ça, et
du coup on se dit 30 minutes est à peu près un bon format, jusqu'à 40 quand on a des bavards en face de nous, et c'est vrai qu'on a beaucoup on a souvent des gens qui ont beaucoup de choses à dire, et c'est tant mieux.
D'accord. Donc,
30 à 40 minutes et on essaie de s'y tenir.
D'accord. Et vous savez combien de fois ces podcasts ont été écoutés? Vous avez une idée?
Le premier podcast, alors de Alain Grèche, sur YouTube, on avait à peu près 500 vues et à peu près 200 sur Spotify. Et le deuxième, un peu moins pour Salah Mouri. Et voilà, c'est parce que en fait, ça va dépendre aussi de qui partage notre podcast. Alain Grèche, comme il était repartagé via son site Orient 21, on a eu plus de repartages.
Voilà. Bon, alors donc le premier sujet, on l'a compris, c'est Alain Grèche.
Voilà.
Dites-nous tout. Comment vous avez décidé de comment. On a deviné que Marie, elle avait lu quand elle était jeune, mais. Pourquoi vous avez commencé par lui et comment, parce qu'il a une telle connaissance, par quel bout vous y êtes pris, quoi.
Ok. Alors en fait, avec Yazid, on a la première chose qu'on a fait quand on a décidé de faire le podcast, on s'est posé et on s'est dit quels épisodes on va faire. Et là, on a fait une liste de sincèrement au moins 60 épisodes. Et je me rappelle que j'ai vu Salah Mouri, qui est un ami, quelques semaines après, et je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses. Je lui ai montré. Au départ, il m'a dit tel sujet, et il est là. Et en fait, il a regardé, il m'a dit. Ah ben je pense que t'as fait le tour. On a vraiment fait une liste très exhaustive de beaucoup 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 de sujets ensemble. Voilà, c'était notre premier jet. Et après notre deuxième rendez-vous, c'était quel sujet on va faire en premier. Et donc on s'était dit il nous faudrait des épisodes culture, épisodes politiques. Donc sur chaque saison, on aura un épisode qui présente un parti politique parce qu'on s'est vraiment rendu compte que les gens ne connaissaient pas la différence entre Fatah, Hamas, FPLP, etc. Et c'est super important de rentrer dans les détails et qu'en fait, que n'importe quelle personne, en fait, elle se pose une question sur un sujet palestinien, tac, elle va sur notre site, elle est la réponse. Ouais. En fait, c'est ça qu'on voulait. Et voilà. Et on s'est dit comment on commence. Alors, on n'était pas forcément d'accord parce que Yazid, il voulait pas forcément commencer par un épisode où, en fait, où on reprend la chronologie. Et
je peux me justifier, je
oui.
crois.
Oui, bien sûr.
Non, mais c'est parce que l'histoire, c'est assez lourd ouais. et assez croisé. C'est-à-dire mmh. qu'on a plein de terminologies différentes, mmh. on a plein d'éléments différents, du coup. Mmh. Et c'est pour ça que ma crainte au début, on a beaucoup parlé avec mmh. Marie, de se dire on lance un premier épisode autour de l'histoire. Il y a beaucoup trop d'informations et ça peut être un peu lourd à écouter pour un premier épisode. Mmh. Et après, là, on s'est mis d'accord, c'était sur la personnalité, mmh. qui allait tous nous mettre d'accord. Mmh. du coup et qui allait vraiment apporter une vraie plus-value et qui est assez efficace dans, dans ses explications et c'était Alain Grèche effectivement qu'on a tous les deux lu et du coup voilà, il fallait aussi un travail de montage pour s'assurer que tout ce qui a été dit soit audible et soit compris et que ces termes, des terminologies, on puisse les expliquer à un moment donné parce que sinon c'est très compliqué du coup de comprendre si on parle de la naissance du sionisme etc. Si on n'a pas bien expliqué ce qu'était le sionisme c'est difficile de comprendre.
Il fallait vraiment un épisode qui pose les termes et quand même qui soit englobant et qui revienne sur l'histoire générale avant d'aller sur des thèmes plus particuliers.
D'accord.
Et Alain Grèche, bon voilà, puis c'est une figure.
Et vous aviez enregistré combien, une durée de combien?
Plus d'une heure, je crois. C'est une heure.
Ah oui, donc vous avez.
Ouais, 50 minutes, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà. Voilà. Ah, voilà.
Et le montage, ça a été compliqué?
Non, c'était pas compliqué. C'est moi qui m'occupe du montage sonore, mais non, c'est pas compliqué. On va, enfin, il faut aller à l'essentiel. Puis moi, je suis habituée parce que je suis monteuse de, je suis pas monteuse sonore, mais de base, moi, je fais de la vidéo, donc j'ai l'habitude du montage, voilà. Mais ouais, je suis assez contente. Enfin, je pense qu'il a bien posé les bases de l'entrée dans le podcast et merci à lui d'avoir participé.
Bon, bah alors pour les auditeurs de Radio Galère, vous allez me donner chacun deux raisons d'écouter ce podcast. Et puis après, on redonnera l'adresse. Allez, qui commence? Je veux quatre raisons d'écouter ce podcast. Qu'est-ce qui nous apprend? Qu'est-ce qui nous donne comme force?
Ok. Alors, première raison, pour ceux qui connaissent mal l'histoire, vous aurez des récapitulatifs historiques, ok? Et deuxième raison, pour ceux qui ont envie de connaître un petit peu plus la culture palestinienne, vous aurez des références, vous entendrez des musiques, vous entendrez des artistes, voilà. À toi.
Bravo.
Du coup, je pense que c'est un podcast qui est accessible. Ça, c'est la raison du coup possible, parce que des fois, il y a des podcasts qui sont un peu compliqués à comprendre, etc. Donc, on a fait assez simple, efficace et accessible. Et la deuxième raison, je dirais que on est très exigeant avec Marie, et du coup, on est très vigilant du coup à ce qui est intégré, du coup à la clarté, aux sources et à qui on fait appel. Et du coup, on sera toujours être vigilant à ce que aussi une forme de pluralité de ce qui est dit, mais du coup surtout une rigueur scientifique. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des personnes qui sont vraiment expertes de leur sujet.
Mais pour avoir écouté le podcast, c'est vrai qu'il y a un beau professionnalisme. Donc, je rappelle Visa Palestinien. Je vous propose d'écouter la deuxième chanson. Qu'est-ce que c'est comme chanson ?
C'est Rajin. Ça, c'est une chanson qui a été écrite après les débuts des massacres sur Gaza et qui regroupe 25 artistes du Maghreb et Moyen-Orient.
اليوم نسقي بدموعه ودمي شهيد دمي شهيد
فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلا من بحر النهر يا ما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير حتى نحكي لا ممنوع سجن حدود وسجن بتعبي
وزنبو طفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين
باللي صاير فينا على ترابك ما تخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني تبلينا وراح اللي بوزينا والله ما توحش ناس اللي جوتني كل يوم بحكوا لي صبر سلاحي واخر صبر الموت والكل شايف بس لا مش فارق صوت
في غزة اليوم تتعرض للإبادة وما كلمتينا من سر ما شهادة فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة وصبرا جميلا العدو سيزول وين الأمة العربية حان الوقت لنثور في بال وعد الحق يوفى وعد الفور وانا قلبي فلسطيني على في العمور
كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان كل الدنيا بلادي من قديم الزمان الفروق بينها حدود كلام على الورق مكتوب والمكتوب أصبح قيود تمنعنا نشوف
قتلونا وهجروني وصار الحجر بيدي سلاحي متلتم ابيض واسود كوفيتي هزر نجاحي وبكف كفاني شايل وبكف كر اللي جاي مفتاح البيت على الرقب بسداد ما بتمايل
مفتاح البيت قلبي وانا راجع وبايدي ولدي ولو كل العالم كان ضدي انا راجع يا بلادي راجع البيت قلبي وانا راجع وبايدي ولدي ولو كل العالم كان ضدي انا راجع يا بلادي راجع
الهي رفعت يدي اليك
بوطاني من الشامي بغداني أرضي هي وبلادي وكل العرب بتنادي احتلالي عدواني موت طفلي واجدادي اسألني مين إرهابي وجاي أقول لك مين بادي
زوري إني مش من أوكرانيا زوري إنه بشرتي مش بيضة زوري لأولادي زوري إني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة زوري الحلم طويل يابا زوري الحمل ثقيل يابا لا سوري على أي سوري ملناش غير إنه نشيل يابا
هنا الموت حياة سهلة بس صعب الحياة حرية كذابة عالم استبدادي
Merci Marie. Tu nous as dit que cette chanson était extraite d'une compilation. Est-ce que tu peux nous en donner les coordonnées parce que ça peut intéresser les auditeurs ?
Alors, c'est pas une compilation. En fait, c'est un morceau qui a été fait qui a été fait avec 25 artistes qui ont fait cette musique qui dure 8 minutes 30. Et voilà. Donc ça s'appelle Raji In. Donc c'est, nous reviendrons, c'est ça, Yacine? Ouais, nous reviendrons.
Merci beaucoup. On découvre toujours des choses au cours de l'émission Une heure en Palestine. Donc on a découvert la première émission de Yazid et Marie. Donc la deuxième portait sur...
sur les prisonniers politiques. Et du coup, notre premier invité, donc, c'était Alain Grèche sur l'histoire de la création de l'État d'Israël avant 1948. Donc revenir un petit peu sur tout l'historique. Et la deuxième, c'est on va sur un sujet de société très important en Palestine occupée, donc les prisonniers politiques. Et notre invité, donc, Salah Amouri.
Et il a parlé de est-ce qu'il a, vous avez réussi à le faire parler de lui? Il est tellement pudique et tellement il préfère parler des autres prisonniers que de lui. Comment vous vous êtes pris? Comment?
Alors déjà j'avais lu son livre qui est sorti 6 mois avant, et puis il a quand même joué le jeu. Après Salah, c'est quelqu'un de très pudique, donc en fait le personnel, il va toujours le ramener à la société, il va toujours ramener, en fait ça tourne jamais autour de sa personne. Donc même si on va lui demander quelque chose de personnel, il va toujours en faire quelque chose de politique, et c'est en ça que c'est très intéressant aussi. Mais c'est vrai que du coup c'est vraiment pas le genre de personnalité qui va ramener de l'ego autour de lui, et c'est en ça que, enfin, il est magnifique, enfin moi je l'admire beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous a dit de personnel? Il nous avait parlé de la chose qui avait été la plus dure pour lui, c'était ça? C'était quoi déjà?
Les transferts, non?
La chose la plus dure pour lui. Non, j'ai plus.
Les transferts de prison.
Non, c'était pas les transferts. C'était pas les transferts.
Ah oui. Oui, donc une deuxième série à découvrir sur visapalestinien.org. On a beaucoup parlé de Salah Amouri ici sur cette émission. On l'admire beaucoup. On s'est beaucoup battu aussi pour qu'il sorte de prison, pour qu'il ne vienne pas en France. Enfin,
on peut peut-être le représenter rapidement.
Oui, tu peux.
Ouais, Salah Amouri, donc c'est un franco-palestinien qui a fait plus de 10 ans de sa vie dans les geôles israéliennes pour son engagement. Et qui a été expulsé de sa terre en décembre 2022 et qui est donc condamné à vivre en France, expulsé comme un réfugié donc depuis décembre 2022. Et du coup il est devenu avocat, il a travaillé pour l'association de défense de prisonniers Ad-Damir, et du coup il parle beaucoup de cette question des prisonniers politiques. Et donc il faut revenir donc sur cette question. Il y a plus de 800 000 Palestiniens qui sont passés par la case prison depuis 1967. C'est vraiment un outil de répression collective, et enfin c'est assez central dans cette volonté d'échange. Voilà, on sait très bien que le Hamas a fait des prisonniers le 7 octobre pour pouvoir échanger des prisonniers politiques, parce que voilà, c'était une de leurs revendications.
Merci Marie. Le livre dont on parle, donc, il est en vente à la librairie Transvide, boulevard de la Libération. Il est en vente au prix de 10 €. N'hésitez surtout pas, c'est très très intéressant, très formateur et très humain à la fois. Donc, c'est après ce deuxième podcast, le troisième. Qui était le troisième élu?
Le troisième élu, du coup, c'est Rania, qui, l'épisode, du coup, portait sur la résistance culturelle, alors plus culinaire, mais davantage culturelle, et comment, du coup, lutter contre l'appropriation culturelle, du coup, par Israël, du coup, à la fois sur les questions culinaires ou des arts, d'une manière générale. Et c'était hyper intéressant d'aborder avec elle tous ces sujets-là, et qu'elle se considère, du coup, comme une vraie résistante, de ce point de vue-là.
Mmh. Voilà.
D'accord.
Et Rania, donc, elle a ouvert Hardy, qui c'est pas vraiment un restaurant, elle considère ça comme une petite maison palestinienne. Donc elle fait de la nourriture, elle propose de la nourriture palestinienne, et elle fait également des événements où elle diffuse des films, fait des petits concerts, etc. Elle a vraiment créé cet endroit pour que ça soit un lieu dit safe pour les gens pro-palestiniens, où ils peuvent voir à la fois des événements, manger palestinien, etc. C'est un endroit culturel sur Paris, et du coup elle est venue nous parler de son parcours en tant que franco-palestinienne, des difficultés qu'elle a eues à ouvrir Hardy, de pourquoi elle l'a fait, et aussi de cette question, en fait, de l'appropriation culturelle, du fait qu'Israël, par plusieurs manières, en fait, essaie de s'approprier des éléments de la culture palestinienne en disant que c'est israélien, et en quoi c'est un danger concret pour pour l'existence palestinienne et comment les Palestiniens résistent à travers ça. Voilà.
Ou même, du coup, la manière dont Israël essaie de nier l'identité palestinienne, oui. Et qu'être palestinien, c'est aussi la culture ou les cultures palestiniennes, et c'est sur lequel elle revient énormément. Et on le voit bien, du coup, on a souvent entendu des choses où des fois on renvoie certains plats, est-ce que ce serait des plats syriens, ou des chansons qui ne seraient pas vraiment palestiniennes, ou que telle personne ne serait pas vraiment palestinienne parce que la Palestine n'existait pas, etc. Et du coup, elle apporte avec aussi, du coup, tout ce qu'elle met en place au quotidien, du coup, cette identité palestinienne, et elle nous explique un petit peu comment elle s'y prend, du coup, en tant qu'elle, résistance culturelle à sa manière.
Alors, je n'ai pas écouté ce podcast. Elle est de quelle génération et comment est son parcours? Oui.
Elle a une quarantaine d'années, Rania. Elle était professeure avant. Et justement, c'est après un voyage en Jordanie qu'elle s'est vraiment intéressée à la gastronomie palestinienne. Parce qu'en fait, du coup, ses parents étaient des réfugiés en Jordanie. Donc, quand elle a fait un séjour en Jordanie dans sa famille, elle a vraiment appris à cuisiner palestinien. Et en fait, quand elle s'est rendue compte en France qu'il n'y avait rien sur la culture palestinienne, en tout cas gastronomique, elle a commencé à faire un blog où elle écrivait du coup les recettes de Palestine. Donc c'était les petits plats de Rania. Ensuite elle a fait un livre et ensuite elle a fait ce restaurant, ce lieu autour de la Palestine.
Voilà. Vous avez mangé là-bas?
Oui, c'est super bon. Ouais,
j'ai c'est quoi votre plat préféré? Dites-nous tout.
c'est le dessert. Je suis amoureux du knafé. C'est vraiment ma passion. Quand j'y vais en Palestine, j'en mange tous les jours, au moins une fois par jour. Mais je pense que c'est au moins une fois
par
jour.
On revient toujours avec des kilos en plus. Voilà.
C'est le problème.
Trop bon. Bon, voilà. Bah, écoutez, nous allons écouter un petit extrait de ce podcast qui, pour moi, je pensais qu'il était inédit. Donc, vous allez découvrir un petit extrait.
Tout à l'heure, tu as parlé d'appropriation culinaire. Moi, je voudrais parler d'une manière plus large d'appropriation culturelle.
Tout à fait.
La culture palestinienne, en quoi c'est un danger, du coup, pour l'identité palestinienne et pour la cause palestinienne?
Bien sûr, c'est un vrai danger parce que déjà, ça nous déshumanise. Quand tu n'as plus de culture, tu n'as plus d'identité culinaire ou même artistique, tu n'es rien. La France sans sa gastronomie, est-ce qu'elle serait vraiment la France? La France sans sa mode et son cinéma, est-ce qu'elle serait vraiment la France? La France sans ses monuments, est-ce qu'elle serait la France? Si on prenait tout ça à la France, ce serait plus la France. Tu vois, c'est exactement la même chose pour les Palestiniens. Que reste-t-il de nous si on nous prend notre culture artistique, culinaire ou autre? Par exemple, il y a un moment, on nous a dit le maloubé, qui est le plat traduit palestinien. Le maloubé, c'est pas palestinien, c'est irakien. Donc, c'est vouloir à tout prix, ok, dire par exemple, ça c'est pas israélien, ok, on avoue, parce que c'est tellement palestinien qu'ils peuvent même plus avoir le droit de s'approprier, tu vois, c'est trop connu en fait, en tant que produit palestinien. Donc, ils vont lui donner d'autres origines. C'est yéménite, c'est irakien, c'est surtout pas palestinien. La Palestine n'a rien.
Ah ouais, c'est l'idée. Il n'a pas de cuisine. La Palestine dans toute sa composante, qu'elle soit historique, culturelle, présentielle.
Exactement. Ouais. Exactement. Donc, déjà, ça nie notre identité, ça nous invisibilise, ça nous efface, et en plus, c'est une manne financière pour Israël. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils récupèrent notre cuisine, en se l'appropriant, en disant, bah non, ça c'est une salade israélienne, ça c'est un knafé israélien, bref, c'est une manne économique pour eux.
Ils font ça même avec le knafé.
Mais bien sûr.
Ah non, on touche pas au knafé palestinien.
Ah, mais je te jure, Ils te disent, c'est du knafé israélien. Ils te mettent israélien à tout, quoi, la pita israélienne, mais non.
Merci beaucoup. Effectivement, je crois que ça promet, cette émission doit être très sympathique. Et allez, on continue, puisqu'on est dans les grands secrets dévoilés. La quatrième.
Donc la quatrième personne, c'est Pierre Stamboul, qui est venu nous parler antisémitisme vs antisionisme, en fait, faire la différence, bien le distinguo entre les deux. Et pareil, c'est un féru d'histoire, donc il est vraiment revenu sur toutes les origines de ce mot et toutes les origines aussi de l'État d'Israël et l'antisionisme, etc. Le sionisme, l'antisionisme, le rapport des juifs à Israël, et c'est super intéressant, et il ramène un peu de nuances, en fait, par rapport à ce qui se dit actuellement dans les médias français.
Donc Pierre Stamboul est un habitué d'une heure en Palestine, puisque parmi les animateurs de cette émission, il intervient, et c'est vrai qu'il intervient toujours de façon claire. Alors il a sa chanson fétiche, lui, c'est le mur de Dominique Grange. Quand il vient, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... On sait que ce sera, on écoutera Abattons les murs. Et donc vous, votre troisième chanson, c'est quoi?
C'est une chanson de Mohamed Assaf, qui est un Gazaoui, qui a participé à une émission qui s'appelle Arab Idol, je crois que c'était la saison 2, et du coup il y a même un film qui a été fait du coup sur Mohamed Assaf, du coup comment est-ce qu'il a fait pour sortir du coup de Gaza pour pouvoir aller faire le tournage et participer à cette émission, voilà. Et du coup je crois que le titre c'est La fierté de Gaza, et c'est un titre qui est sorti en début d'année du coup pendant le génocide, voilà.
Pour une chanson pour Gaza. Cette musique, je crois que tu nous as donné envie de danser. Bon, on ne danse pas, on est sérieux. Marie et Yazid, présentez-nous encore les épisodes suivants, puisque je crois que ça se bouscule au portillon. Donc, nous en étions au quatrième à Pierre Stamboul, le cinquième
Le cinquième, ça sera Monira de BDS, qui vient nous parler donc du mouvement boycott des investissements sanctions, qui est parti de Palestine, hein, de la société civile palestinienne, et qui nous demande, nous, en tant que société civile, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est la moindre des choses. On boycotte, on demande des investissements de certaines entreprises qui, justement, qui ont investi en Israël, en terre occupée, et sanctions. Et ça, c'est au niveau international. Et voilà. Donc, Monira vient nous parler de ce mouvement-là, et c'est super intéressant. Ouais. Ensuite, on a un autre épisode qui va parler du Hamas. Et je pense que c'est très important aussi de démystifier et d'aller aux origines de ce mouvement, et en fait de parler de ce parti politique qui est un parti qui est quand même très suivi par les Palestiniens. Et en fait, diaboliser un moment, ça suffit de toujours voir, de mettre l'épouvantail crasseux. Et en fait, il faut vraiment parler des choses, analyser, parler de l'histoire. C'est un mouvement qui fait c'est un mouvement politique avec lequel, de toute façon, à l'international, il faut parler. Donc, parce qu'ils sont, ils représentent la Palestine. Donc
vous l'avez déjà enregistré, cet épisode?
On l'a enregistré.
Et ouais. Alors, qui c'est que vous avez
La surprise.
Ouais, ça, c'est surprise.
C'est la surprise. Bon, je ne dis rien alors. Ouais. vous serez obligés de revenir à Radio Balère pour nous le dire, hein, entre quatre yeux. Vrai que c'est intéressant, je pense.
Ouais. On parlera
et
des
sous quel angle vous l'avez pris, historique?
Sous l'angle politique. C'est-à-dire, vraiment, on ne s'est pas intéressé du coup à l'aile de la résistance, en tout cas du bras armé du coup du Hamas, mais on s'est vraiment intéressé du coup au volet politique et comment le Hamas s'est créé du coup, comment est-ce qu'il en est arrivé là, ses aspirations, ses critiques qu'on peut avoir, et à la fois ce qu'il a réussi à faire dans les territoires palestiniens. Voilà.
Et comme on vous disait, vraiment, on a pour but de faire une cartographie un petit peu donc des partis politiques. Donc on parlera aussi des partis de gauche, donc le FPLP, le FDLP, on parlera du Fatah, on parlera de... Voilà, en fait, on veut être exhaustif, quoi.
Mais on voulait commencer par le Hamas parce que c'était d'actualité et qu'il y avait besoin de démystifier un petit peu du coup, ce qu'était le Hamas pour éviter toute la propagande qui est en cours. Alors qu'on soit du coup favorable au Hamas ou non, c'est pas le sujet, mais nous c'était essayer de décrypter, de comprendre ce mouvement
c'est
politique.
Bien, ouais. Voilà. Ensuite, on a eu comme invité Gilles Devers, qui est venu. Donc Gilles Devers, qui a initié la plainte contre Netanyahou, justement, pour crime de guerre contre l'humanité. Et donc, il vient nous parler de droit international et comment on peut défendre la Palestine avec le droit international.
Et vous l'avez déjà enregistré?
Oui.
Parce que là, il y a eu des derniers jugements, là, ces jours-ci. Oui. Vous allez être obligé de faire encore un petit enregistrement.
Une petite mise à jour, je sais pas.
Oui. Et c'était intéressant.
Oui, très intéressant.
Il a réussi à résumer en une demi-heure.
C'est le sujet, c'était comment aujourd'hui la défiance face au droit international qu'on a aujourd'hui, toutes et tous, on est tous là à se dire comment est-ce qu'un génocide peut avoir lieu du coup et qu'il ne se passe rien, quelles sont les instances aujourd'hui. Donc il nous a un peu réexpliqué et donné cette croyance quand même que le droit international posait aussi des choses du coup qui permettaient à l'avenir et que même les Palestiniens eux-mêmes du coup se sont accaparés du droit international du coup comme un moyen de lutte et de résistance du coup pour la création d'un futur État palestinien. Donc c'était beaucoup d'espoir quand même qui nous a partagé du coup lors de cette émission.
On découvrira ça avec impatience. Et le huitième?
Et le huitième, c'est sur les accords d'Oslo. En fait, on revient avec un sociologue palestinien sur les accords d'Oslo.
Là, vous aviez pensé à...
Pardon?
Vous avez pensé à qui pour en parler? On peut le dire?
Parce qu'on c'est pas encore totalement. On l'a pas enregistré celui-là, et du coup, tant qu'on n'enregistre pas, on préfère, parce que des fois on change d'intervenant.
Et donc là, ces 8 numéros seront la saison 1.
C'est la saison 1.
Exactement.
Ouais. D'accord. Et donc toujours sur votre site.
Ouais. Donc sur le site visapalestinien.org. Ils sont aussi, les épisodes, vous pouvez les trouver également sur Spotify, sur Visa Palestinien, et sur YouTube, Visa Palestinien. Et à noter que donc cette première saison, c'est que de l'audio, et on a décidé de passer à la vidéo pour la saison 2. Voilà, donc on y aura, ça restera des formats podcast sur Spotify et Apple Podcast aussi pour la saison 2, mais on rajoutera la vidéo.
Et alors cet exercice qui est quand même professionnel, je trouve, que
merci
pour avoir écouté, c'est, vous êtes bénévole ou bien vous avez un petit ou un gros?
Oui, c'est 80% de mon temps actuellement, et ça nous prend énormément de temps, d'énergie, mais c'est vraiment le cœur et la passion de militant, on va dire, qui nous réunit et qui fait qu'on fait tout ce travail. Ouais. On gagne zéro sou, on est financé par personne, le matériel donc nous est donné, enfin nous est prêté par Samir. Les locaux nous sont prêtés par l'endroit où travaille Yazid. Et puis après, on met nos qualités. Yazid va écrire la newsletter, l'article pour le blog. Moi, je fais le montage. Là, on a pris en plus un mixeur que Franck, merci à lui, qui vient mixer en plus. Nous, on écrit les épisodes. Enfin, c'est un travail de fou, mais c'est vraiment pour la Palestine et parce que là, il y a du taf à faire. Il faut faire. On doit le faire. Voilà.
Peut-être dire aussi à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent là, les difficultés qu'on a rencontrées, notamment du coup sur les réseaux sociaux, du coup, où nos comptes ont été suspendus. Voilà, on a personnellement fait l'objet de
hacking.
De hacking, du coup. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive aussi à nous. Voilà, donc c'était pas si évident. Et du coup, on a pris un peu parfois de retard, mais on est là et on tient bon. Et c'est pas ce genre de choses qui vont nous empêcher d'aller continuer. Et au contraire, je pense que ça nous donne plus de motivation. Donc n'hésitez pas à nous hacker encore pour ceux qui en ont envie.
Je souhaite longue vie à Visa pour la Palestine. Visapalestinien.org. Longue vie. Merci pour ces belles émissions que vous faites et qui nous aident à bien comprendre, à bien fixer nos pensées. Merci pour votre présence aujourd'hui. J'étais très contente de vous recevoir. Et puis, alors, promis, on se refait peut-être une émission au prochain trimestre pour dévoiler la saison 2. Oh là là, ça va être terrible. Je vais faire votre agent publicitaire.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Claire, et merci, Sidi.
Merci à tous. Merci à Sidi pour la technique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.
Au revoir.
Au revoir.